Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
C'est Sébastien Rouxel qui se charge de vous informer en ce dimanche matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Près de 45 000 nouveaux cas en 24 heures, 138 décès. La deuxième vague de l'épidémie continue de gagner du terrain.
Et le bilan va s'alourdir dans les prochaines semaines, quoi que nous fassions. C'est le constat terrible du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors que les hôpitaux sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme, certains sont déjà saturés. Antoine Decarne, c'est le cas dans le Nord, où des premiers transferts de patients ont dû être effectués.
C'est surtout avec la saturation des hôpitaux de Roubaix et Tourcoing qu'une dizaine de patients a été transférée, certains vers Lille, d'autres vers Boulogne-sur-Mer ou Amiens. Frédéric Boiron est le directeur général du CHU lillois. Un cap a été franchi dans l'organisation.
Nous aurons ouvert 100 lits de médecine Covid et 70 lits de réanimation Covid, avec 15 à 20 entrées par jour de patients.
Ici au CHU de Lille, l'activité a doublé par rapport à la semaine dernière. Le professeur Julien Poissy est le chef du service de réanimation.
Eh bien, je confirme que ces malades les plus graves, ils arrivent maintenant. Des patients très sévères, on a quelques patients un peu plus jeunes quand même, une quarantaine d'années parfois, un peu en surpoids, mais pas de façon extrême, ce qui interpelle.
Et ces nouveaux types de patients, ils proviennent pour la plupart des rassemblements familiaux.
Dans les histoires récentes qu'on a eues, parfois un peu dramatiques, pour le coup, on voit bien l'importance que peuvent avoir les comportements des uns et des autres. Clairement, on pourra difficilement faire face si la courbe exponentielle continue à grimper. Avec la même allure.
Car si aujourd'hui le taux d'occupation en réanimation est de 53%, au CHU de Lille, on s'attend au pire d'ici une quinzaine de jours.
Antoine Decarne, le correspondant de RTL dans le Nord.
Le meilleur moyen de soulager nos hôpitaux, c'est de ne pas tomber malade. Ce sont les mots et la mise en garde de Jean Castex en déplacement hier à Marseille, à l'hôpital Nord.
Le Premier ministre qui en appelle notamment au respect du couvre-feu qui concerne désormais 46 millions de Français. Un nouveau coup dur pour les restaurateurs et les bars. Écoutez Thierry, il est le gérant de la brasserie La Renaissance à Rabastens dans le Tarn, où pour la première fois hier, chacun devait être chez soi à 21h.
Nous avons pris la décision, puisque couvre-feu 21h, c'est de ne plus servir les verres à partir de 20h, puisque tout le monde puisse avoir le temps de rentrer chez soi, et nous de nettoyer notre bar et être chez nous à l'heure tolérée, 21h. Donc pour la restauration du soir aussi, il faudrait qu'on commence à travailler à 18h30. Nous n'avons pas dans notre village des gens qui viendront déjeuner, souper le soir à 20h30. Donc nous avons pris la décision, enfin j'ai pris la décision de faire le chômage partiel pour tout le reste des salariés. Je ne peux pas allumer la lumière étant dans un village pour deux repas, perte. Donc on a pris le choix de supprimer le repas du soir.
Témoignage recueilli par Pierre Collat dans le Tarn pour RTL. Les députés ont d'ailleurs adopté hier soir la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Mais contrairement au printemps dernier, Marie Mollet, les débats ont été particulièrement houleux dans l'hémicycle.
Oui, qu'il est loin le temps de l'Union nationale du mois de mars. Hier, toutes les oppositions ont fait bloc contre le projet de loi. L'état d'urgence, une arme atomique pour la droite et le député LR Antoine Savigna.
Aussi des libertés fondamentales à garantir. On ne peut pas indéfiniment laisser les mains libres au gouvernement. On a un devoir de contrôle.
Un chèque en blanc accordé au gouvernement selon la gauche et l'insoumis François Ruffin.
Vous imposez le couvre-feu comme les parents éteignent la lumière à leurs enfants. Pas de discussion, Koh-Lanta et au lit.
Au cœur des débats, la durée de l'état d'urgence qui pourrait courir en partie jusqu'en avril et les ordonnances qui permettraient de contourner le Parlement. Un mal nécessaire, juge le gouvernement et la ministre Brigitte Bourguignon.
Une fois pour toutes, qu'est-ce que vous croyez ? Que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas envie d'aller au marché de Noël, d'avoir des restaurants ouverts, des cafés ouverts, qu'on fait ça par plaisir. Enfin !
Adopté en première lecture, sans surprise, le texte doit passer au Sénat la semaine prochaine.
Marie Mollet du service politique de RTL. En Italie, le couvre-feu ne passe pas. On vous parlait hier de ces affrontements à Naples entre manifestants et forces de l'ordre. Eh bien, cette nuit, à Rome, quelques 200 militants d'extrême droite opposés aux restrictions s'en sont pris à la police. Deux agents ont été blessés, 7 personnes interpellées. Aux États-Unis, la situation sanitaire continue de se dégrader. Près de 89 000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures. C'est du jamais vu depuis le début de l'épidémie dans le pays. Trump a complètement foiré dans sa gestion du Covid, a lâché Barack Obama hier à 9 jours de l'élection présidentielle. C'était lors d'un meeting de soutien au candidat démocrate Joe Biden.
9h05, vous restez là. La suite du journal, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité. On va revenir chez nous en France. car le Conseil français du culte musulman veut lutter contre l'islamisme. On va vous expliquer après ceci. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
À mes côtés, Sébastien Roussel, c'est toute l'actualité en ce dimanche matin, un peu plus d'une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. Le Conseil français du culte musulman se mobilise à son tour contre le radicalisme.
L'instance est en train d'élaborer un programme commun de formation des imams. Elle l'a annoncé hier. L'objectif affiché par son président Mohamed Moussaoui, éviter un maximum l'existence d'imams autoproclamés qui diffusent une idéologie islamiste.
Le fait d'assassiner lâchement de cette manière-là atroce un enseignant, c'est le cœur battant de la République, c'est l'école. Nous avons dit il faudrait que cette jeunesse qui est exposée à cette idéologie mortifère puisse être immunisée et préservée. D'où la nécessité donc de créer des conseils des imams au niveau local et au niveau national et d'améliorer leur formation à ce qu'il y ait un cursus bien identifié, reconnu, c'est éviter qu'il y ait des imams autoproclamés par de nouvelles compétences par des jeunes qui sont investis dans les réseaux sociaux, qui ont les moyens et les ressorts de communication de la jeunesse et les former et les armer face à cette propagande extrémiste. Et je pense que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Nous souhaitons que toutes les composantes de l'islam de France puissent s'investir et s'engager dans cette voie.
Le président du Conseil français du culte musulman, joint par Nicolas Burnand. Dans le journal du dimanche, Jean-Michel Blanquer annonce ce matin qu'il y aura un cadrage clair pour la rentrée le 2 novembre prochain. L'objectif, répondre aux inquiétudes des enseignants et savoir quel discours tenir aux élèves concernant l'assassinat de Samuel Paty. L'immigration en France devra inévitablement être réduite et maîtrisée, phrase signée François Baroin ce matin, également dans le JDD. Le maire de Troyes estime que les arrivées de populations étrangères liées à des situations de guerre ont déstabilisé certains quartiers. Des déclarations que Marine Le Pen ne manquera pas de commenter. La présidente du Rassemblement National et l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI de midi à 13h avec Benjamin Sportouche. Le maire écologiste du 8e arrondissement de Lyon visé par des tags le menaçant de décapitation. Les inscriptions ont été retrouvées hier sur la façade d'une école. Elles visaient également les enseignants et les élèves.
Et puis ça fait partie des grands titres ce matin, cette tension qui monte encore d'un cran entre Paris et Ankara, entre la France et la Turquie.
L'Élysée a rappelé son ambassadeur hier et dénoncé des propos inacceptables, réaction aux nouvelles attaques du président Erdogan qui a remis en question la santé mentale du président français, dénonçant son attitude envers les musulmans. Les relations entre les deux hommes étaient déjà fraîches, Christophe Decroix, elles sont devenues hier exécrables, comment l'expliquer ?
Oui, tout d'abord, il faut savoir que les propos du président Macron, promettant lors de l'hommage à Samuel Paty de ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mahomet, suscitent de l'émoi dans le monde musulman. Depuis quelques jours, on y entend des appels au boycott des produits français. Erdogan, qui aimerait être le leader de ce monde musulman, cherche à récupérer cette émotion. Et cela d'autant plus que depuis quelques mois, les griefs et les échanges aigre-doux ne font que s'amplifier entre Erdogan et Macron. On ne compte plus les différences sur l'attitude de la Turquie en Libye, en mer Méditerranée, en Syrie, sur l'OTAN et maintenant dans le Haut-Karabakh. Alors, quand le président français menace en plus de contrôler les financements des mosquées installées en France ou d'interdire la formation des imams à l'étranger, il y a de quoi énerver le président turc qui se sert habituellement de ses leviers. Ceci explique sans doute ses invectives fort peu diplomatiques qui lui font même omettre le minimum, adresser ses condoléances à la France après l'assassinat de Samuel Paty.
Les explications de Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL. Un steward d'Air France en vacances au Brésil a été poignardé à Rio. Il a reçu plusieurs coups de couteau dans le quartier touristique d'Ipanema. Opéré, il est toujours en soins intensifs, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis, le renseignement afghan annonce la mort d'un important dirigeant d'Al-Qaïda, également recherché par les États-Unis. Il s'agit d'un Égyptien considéré comme le numéro 2 de l'organisation terroriste dans le sous-continent indien. Il a été tué par les forces spéciales afghanes.
9h10, on en vient au sport et au rugby. D'abord avec un retour réussi pour le 15 de France après plus de 7 mois d'absence.
Les Bleus se sont imposés hier soir au Stade de France face au Pays de Galles, 38-21. De quoi faire le plein de confiance à une semaine du choc face à l'Irlande en clôture du tournoi Destination. Écoutez Vincent Rathès, l'ailier de l'équipe de France.
C'est un match super encourageant, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'entraînement en commun. Ça faisait mine de rien 8 mois qu'on ne s'était pas retrouvés, donc c'est vrai qu'il y a de belles choses. C'est vrai que c'est cool, il y a eu pas mal de plaisir. Je pense que les téléspectateurs aussi se sont régalés devant leur téléviseur. Donc c'est vrai que c'est aussi important pour eux et pour tous les supporters du rugby français. Après, voilà, on sait que ça va être un tout autre match contre l'Irlande. On sait qu'on a toutes nos chances encore de pouvoir remporter le tournoi, donc voilà, on est focus là-dessus. Après, on se doute que ça va pas être le même match et les Irlandais aussi doivent gagner pour avoir une chance de remporter le tournoi, donc ça va pas être évident, mais c'est vrai que c'est de bon augure et c'est cool de pouvoir préparer la semaine avec un bon match de notre part.
Vincent Rathès au micro RTL de Jean-Michel Rascol. En top 14, Lyon s'est imposé 16 à 7 à Toulouse, victoire également de Clermont 50 à 29 face à Pau, victoire du Racing 82 27 à 25 face au Stade Français et de Bayonne contre Agen 26 à 15.
Le football, la Ligue 1, la 8e journée et pas de soucis hier soir pour le PSG.
Victoire 4 à 0 face à Dijon. On peut dire que Mbappé et ses coéquipiers se sont bien repris après leur défaite face à Manchester United cette semaine en Ligue des Champions. Nicolas Georgerot.
Oui, 4 buts, une place de leader provisoire, une recrue Keane, auteur d'un doublé. Le PSG a bien réagi après la défaite contre Manchester United. Le climat n'est pourtant pas si serein. Le choix curieux de Thomas Tuchel d'intervertir à leur poste le milieu défensif Danilo avec le défenseur central Marquinhos n'a pas manqué d'étonner. L'entraîneur parisien a tenté de se justifier après la rencontre.
Danilo, il peut bien sûr aussi jouer cette poste-là. Marquis, il est un défenseur central aussi sur le meilleur niveau, mais Marquinhos, il est le cœur et l'âme de notre équipe et pour ça, il doit jouer au cœur du match, au milieu. On a des joueurs qui en a et après on va chercher les meilleures solutions.
La période des transferts a laissé les traces entre souhaits de l'entraîneur non exaucés et surveillance budgétaire instaurée. Tous les incendies ne sont pas éteints. Thomas Tuchel joue avec le feu dans ce bras de fer interne avec son directeur sportif Leonardo.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. De son côté, Marseille enchaîne malgré quelques frayeurs hier soir. Victoire 1-0 face à Lorient. Suite de la 8e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 6 matchs. Bordeaux-Nîmes, Brest-Strasbourg, Montpellier-Reims et Metz-Saint-Etienne à 15h, Nice-Lille à 17h, puis Lyon-Monaco à 21h. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Le match entre Lens et Nantes est reporté en raison du Covid. 11 cas dans l'effectif nordiste. En Ligue 2, le Paris FC est en tête du championnat. Le club de la capitale s'est imposé 2 buts à 1 hier à Châteauroux. Et puis en Formule 1, Lewis Hamilton s'élancera en pole position tout à l'heure lors du Grand Prix du Portugal. Départ à 14h10. Le pilote Mercedes qui, en cas de victoire, pourrait établir un nouveau record avec 92 succès. Il passerait juste devant Michael Schumacher.
Pour finir ce matin, on voulait vous raconter une très belle histoire, histoire de Christophe Malo.
À seulement 12 ans, ce jeune Martiniquais a réalisé un exploit il y a 2 semaines, nager 40 km entre l'île de Sainte-Lucie et la Martinique. C'est à la fois pour Octobre Rose, cette campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du sein, et pour sa mère qu'il tenait à le faire. Isabelle Langer.
Oui, c'est pour sa maman Muriel qui souffre d'un cancer du sein que Christophe s'est lancé ce défi XXL.
Je voulais lui montrer qu'il fallait se battre contre la maladie et ça l'encourage d'ailleurs. Ben, c'est elle aussi qui m'a encouragé à arriver parce que quand les courants et les vagues ont changé de sens et étaient en sens contraire, je pensais à elle et ça m'a permis de continuer.
Parce qu'il faut vous rendre compte, 40 km, c'est l'équivalent de 800 allers-retours en bassin de 25 mètres. Quand il s'est jeté à l'eau dans la mer des Caraïbes, alors que la nuit était encore bien noire, Christophe a eu un peu peur, des méduses notamment, qui l'ont un peu piqué. Mais il s'est accroché.
La traversée, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. En plus, il y a eu un groupe de dauphins qui nous a rejoint à mi-parcours et ils nous ont accompagnés pendant 2 ou 3 minutes. Donc franchement, c'était nickel.
Christophe a mis 13h50 pour boucler son exploit. Le lendemain de l'arrivée, il a fêté ses 13 ans et a déjà d'autres défis en tête. Mais son rêve, c'est surtout de disputer un jour les Jeux Olympiques.
Récit signé Isabelle Langer du service des sports de RTL.
Ça fait du bien ces belles histoires avec cette actualité bien morose. Merci à vous Sébastien. Toute l'actualité, vous allez cliquer rtl.fr. C'est tout simple, c'est dimanche. On a envie de savoir comment ça se passe dans le ciel. Alors on se tourne vers Valérie Quintin qui a toutes les réponses. La météo.
Les réponses à tout, monsieur. Vous savez bien. Eh bien, il pleut, figurez-vous. Il pleut voilà. De l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes, en passant par aussi par le nord. Ça touche déjà un petit peu la Lorraine. Évidemment, l'Île-de-France est concernée, la région centre, le Poitou-Charentes, le Limousin, des pluies qui vont avancer vers l'est et vers le sud. Très lentement, elles n'arriveront que ce soir et la nuit prochaine. Ce qui veut dire qu'avant ça, dans l'est et dans le sud, la journée sera plutôt bien ensoleillée, malgré quelques petites entrées maritimes un peu ridicules, mais qui cachent un peu le soleil en Languedoc-Roussillon. Et puis à l'arrière, un régime d'averses assez fréquentes. Température très douce, elle reste douce, 15 degrés attendus à Paris, au au Mans ou encore à Beauvais cet après-midi, 16 à Brive, 19 degrés à Bourg-en-Bresse, 20 degrés à Nîmes et à Carcassonne.
C'est bien noté, merci Valérie. Longchamp, le quintet du dimanche et le